spirituel, aujourd'hui, il sera question d'un laïc. Je crois bien que c'est un saint laïc pour notre temps. C'est un père de famille, père de 7 enfants, Edmond Michelet. Edmond Michelet est très connu en France à cause de tous les ouvrages qui ont été publiés sur lui, des ouvrages extrêmement importants. Et c'est aussi parce qu'il a écrit un livre qui a fait sensation à l'époque, « Rue de la liberté » aux éditions du Seuil, et encore plus parce que il a été, pour ainsi dire, presque le bras droit de Gaulle, et sa cause de béatification est introduite à Rome. On songe vraiment, sérieusement, à le béatifier. Je vous signale qu'il a été député, sénateur de Paris, délégué à l'ONU, ministre des anciens combattants, ministre de la justice, ministre d'État chargé à la fonction publique, il a été ministre des affaires culturelles, etc. C'est un homme de très grande envergure. Le père Carré a écrit des articles très intéressants à son sujet. Il rapporte que d'Edmond Michelet, que c'est son action dans le camp de concentration de Dachau, où il a été enfermé pour avoir lutté contre les Allemands dans la résistance, c'est cette action qui l'a fait entrer au gouvernement. Alors, il avait trop médité sur l'action de l'homme dans la cité, dans son pays, pour ne pas accepté malgré le risque de tels engagements, puis il connaissait très bien, dit-on, la parole du pape Pie XI, qui affirme que les intérêts d'un pays se trouvant en cause, eh bien, le domaine politique est après celui de la religion, imaginez, après celui de la religion, le champ de la plus vaste charité. Et c'est cette charité politique que Edmond Michelet a vue comme étant une action courageuse, efficace et vécue avec tous. Il l'a vraiment vécu à fond. Il ne s'est pas gêné pour faire ce qu'il avait à faire. Sur sa tombe, d'ailleurs, est inscrite une phrase du curé d'Ars. Il nous demandera si nous avons employé nos forces à rendre service au prochain. Sa tombe et dans la chapelle Notre-Dame de la Paix à Marcillac, où il a vécu, et ça illustre ce qu'a été sa vie, une vie tout entière, tournée vers ses frères. Il est né à Paris en 1899, il est mort en 1970, donc il est mort à peu près à 71 ans. Il est né de parents qui étaient des commerçants, très chrétiens. Il a passé son enfance et sa jeunesse à Pau, c'est près de Lourdes. Il a été envoyé en 1919 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. C'est un très joli petit village, charmant, où il y a beaucoup de vie intellectuelle, aujourd'hui du moins. Et il y a fait son service militaire, puis il a rencontré Marie Vial, qu'il épouse en 1923. C'est un mariage extraordinairement profond. Un amour qui a duré pour la vie, et ils ont eu, comme je vous ai dit, 7 enfants. Après quelques années à Pau, ils se sont installés définitivement à Brive, et c'est là qu'ils ont élevé leurs enfants. Edmond Michelet, qui était courtier en alimentation, est très tôt engagé dans la vie associative chrétienne, dans les associations chrétiennes, d'abord à Pau, puis à Brive. Il appartient un moment aux équipes sociales fondées par Robert Garrick, dont il a fait sienne la devise, c'est une très belle devise, agir en chrétien, non en tant que chrétien. C'est très différent, agir en chrétien, non en tant que chrétien. Et c'est donc en chrétien qu'il s'engage dans la résistance contre le nazisme. Et dès 1938, donc vers l'âge de 39 ans, il s'est inquiété de la montée de tous ces fascismes en Europe. Le 17 juin 1940, il diffuse un tract qui est tiré des œuvres de Péguy, Charles Péguy, pour appeler les habitants de Brive à combattre le nazisme. Il est arrêté par la Gestapo. Oui, le 25 février 1943. Alors, au début, il est incarcéré à Fresnes, puis il est déporté au camp de Dachau, ou Dachau, on dit Dachau en français, où il reste jusqu'au mois de mai 1945, jusqu'à la fin, et c'est lui, pour ainsi dire, qui sort le dernier, puisqu'il s'est occupé des prisonniers pour les aider à quitter le camp. Et à la libération, le général de Gaulle le nomme ministre des armées. Il reste engagé dans la vie politique jusqu'à sa mort le 9 octobre 1970 à Marciac. Ministre, plusieurs fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'oublie jamais qu'en langage évangélique, ministre veut dire serviteur. Hein? Un ministre, c'est un serviteur. Il écrit d'ailleurs dans un article en 1965, un homme d'État ne peut dissocier sa vie privée de sa vie politique. Il faut vivre comme on pense. Et il nous invite tous, même aujourd'hui quand on lit sa vie et ses écrits, il nous invite à avoir comme lui la hantise des autres. C'est un chrétien engagé, donc au service de ses frères. Oui, Edmond Michelet s'est engagé très jeune dans les conférences de Saint-Vincent de Paul, fondées par le bienheureux Frédéric Ozanam, et dans l'Action catholique, de même aux équipes sociales dont je vous ai parlé, puis au cercle du Guet, dont on connaît moins l'existence ici au Québec. Il cherche à vivre vraiment la fraternité puis le partage avec ses frères de tous les milieux, qu'ils soient chrétiens ou non. Peu importe, il aime tout le monde. Il a même appris à pardonner aux Allemands après la guerre. Il s'efforce de combattre donc tout sectarisme et de faire la distinction entre les doctrines qu'il rejette et les hommes qu'il s'efforce de comprendre. C'est comme ça qu'il s'était forcé à comprendre les Allemands. En 1936, je reviens un peu en arrière, Edmond Michelet a accueilli à bras ouverts des réfugiés espagnols durant la guerre civile. Puis dès 1938, des réfugiés allemands et autrichiens, en particulier des juifs. Pendant l'exode, il accueille chez lui des Français, lorsque les nazis ont occupé l'Allemagne. Et tous se sentent chez eux dans la maison des Michelet, y compris les juifs allemands. C'est assez phénoménal. Il explique son engagement dans la résistance en affirmant à plusieurs reprises « ma position était en quelque sorte plus religieuse que politique ». Et sur le mur de sa cellule, imaginez à Fresnes, dans la prison de Fresnes, où il a passé 6 mois au secret, Edmond Michelet a gravé avec la pointe d'une fourchette, écoutez bien, « ma grâce te suffit ». Quel grand chrétien! Et en plus de ça, bien, il organise son emploi du temps de prisonnier comme celui d'un ermite. Je vous donne l'horaire, brièvement. À 6h30, Angélus, avant et au moment du lever, et puis des exercices physiques. Une demi-heure plus tard, à 7h, un jus avec casse-croûte, une grande toilette. À 8h, prière du matin et le chapelet, car il avait une ferme, un ferme amour pour Marie. À 8h45, lecture de la Bible jusqu'à 10h, donc 1h15 de lecture de la Bible. Messe chantée, autant que possible, où il le faisait lui-même, suivi du chemin de croix et des litanies de la Sainte Vierge, tout ça en prison. À midi, Angélus, la soupe. Midi 45, une sieste ou lecture. À 4h l'après-midi, un jus, puis ensuite relecture jusque vers 19h, donc pendant 3h, puis collation, rosaire, vêpres, chantée, cantique à la Sainte Vierge, le chant du salut du Saint-Sacrement, prière du soir, puis vers 10h30, re-grande toilette, puis au lit. Étendu sur sa paillasse, le chant des complis, puis l'Angélus du soir. Vous direz, c'est incroyable pour un laïc, un père de famille. Oui, 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 c'est comme ça. Et à Dachau, où il arrive le 15 septembre 1943, le jour de Notre-Dame des Sept Douleurs, eh bien, Edmond Michelet continue à mettre en application l'Évangile. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, il passe ses 21 mois de déportation, presque 2 ans, donc, à aider ses frères les déportés, en qui il voit toujours le visage du Christ crucifié. Puis il fait preuve alors d'une charité héroïque. Il est attentif à tout le monde, à chacun. Il réconforte, il encourage. Il partage ses petits surplus qu'il peut récupérer là aux malades qui sont atteints du typhus et qu'il visite sans relâche. Il réussit comme un nouveau Saint-Tarcissus. Vous souvenez-vous, les gens plus âgés, Saint-Tarcissus qui allait porter la communion puis qui s'est fait tuer au début de l'Église. Alors, il apporte l'Eucharistie au risque de sa vie dans ce camp de concentration allemand terrible de Dachau. Et lui-même finit ainsi par attraper le typhus, puis il a failli en mourir. Au camp, donc, il s'emploie également, avec beaucoup de constance, là, à maintenir chez les Français une ambiance de dignité. Il dit bien, et il répète souvent, les hommes sont à l'image de Dieu. Il crée une ambiance de solidarité. Mais le but des Allemands est d'entretenir la haine parmi les déportés. Alors il lutte contre ça. Il nous a laissé son témoignage, comme je vous ai dit, dans ce livre sensationnel « Rue de la Liberté » paru aux éditions du Seuil. C'est vraiment un livre admirable qu'il a écrit sans aucune haine ni même rancune, mais au contraire, dans un esprit de pardon et de réconciliation avec les Allemands. Ce livre est fait de bienveillance et de charité chrétienne. Je vous en lis un passage. On est en août 1943, Edmond Michelet est sur la route de la déportation, donc avec lui, son ami de combat Jacques Renouvin, puis deux jeunes juifs appartenant à ce mouvement, dont l'un de ces jeunes juifs, au cours d'une conversation, s'était vivement opposé au catholique Renouvin en affirmant son agnosticisme. Il disait qu'il n'avait pas la foi, qu'il ne savait pas quoi croire, il n'était pas sûr si Dieu existait. Et à leur arrivée au camp, les juifs du convoi ont été roués de coups par les SS et laissés pour mort. Alors il écrit, « Effectivement, quand la nuit est venue, c'est sur des brancards improvisés qu'on a dû faire pénétrer dans le bloc ou dans la baraque et déposer sur des bas-flancs, là, des espèces de lits sans paillasse, les corps inertes de nos pauvres camarades juifs. Nous étions tous persuadés que les deux plus jeunes, au moins, ne pourraient reprendre connaissance, tant l'épreuve avait semblé au-dessus de leurs pauvres forces de jeunes gens. Il y avait plusieurs heures qu'ils étaient hors de course et que les SS, assouvis, les avaient abandonnés inanimés sur le bord du chemin. Et nous étions tous crispés de rage. Nous nous sommes jetés sur les kartoffels, c'est-à-dire des pommes de terre, que nous avons avalées silencieusement telles quelles. Et puis nous sommes allés, à notre tour, nous écrouler sur les planches nues qui constituaient notre lit, notre couche. Et c'est alors que Renouvin a une idée proprement extravagante. Pour animer un peu cette chambrée mélancolique, il a proposé une sorte de jeu de salon, c'est-à-dire qui serait à cette heure capable de réciter de mémoire l'intégralité d'un poème de son choix. Et les gens lui ont tous dit, tu es fou. Alors, Renouvin a tenu bon. Et pour mettre en mouvement, il a commencé lui-même à débiter les premiers vers d'Hernani, qu'il savait par cœur. Et puis, William écrit, écrit-on ici, là, « Si ma mémoire est bonne, elle nous a servi naturellement une pièce de vers à Rennes. » Puis, on a eu droit du Musset, du Peggy, et même, Dieu me pardonne, à du Paul Giraldi. Et nous sommes allés commencer à nous assoupir quand la nuit, déjà avancée, nous avons entendu s'élever dans l'ombre la voix du jeune juif agnostique. Mais j'ai moi aussi un poème à réciter. Alors, on n'avait plus envie de dormir, nous étions stupéfaits, c'était la voix de notre petit juif agnostique de la nuit précédente qu'on croyait tous morts. Il a ajouté, voici la Vierge à midi de Paul Claudel. Puis il a enchaîné, articulant lentement, marquant chacune des rimes, il est midi. Je vois l'église ouverte. C'est un juif agnostique, il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Il n'est pas recommandé d'être présomptueux, dit Edmond Michelet. Je ne sais donc vraiment pas si j'irai un jour en paradis, mais j'ai le sentiment que si cette grâce suprême m'est accordée, j'y rencontrerai sûrement mon petit juif agnostique aux yeux bleus du camp, qui s'endormit en disant du Claudel, le soir de la fête de Saint-Raymond Nonna, de l'ordre de Notre-Dame de la Merci. Il y a quelqu'un qui était présent à la libération du camp de concentration de Dachau au printemps 45, qui écrit au sujet d'Edmond Michelet, jamais je n'avais vu émaner d'un homme un tel rayonnement de bonté. Au milieu d'autant de souffrances et de misères, et jamais je n'aurais imaginé qu'un regard si dépourvu de haine puisse se poser sur l'ennemi vaincu. C'est quelqu'un qui mettait vraiment en pratique, hein, le pardon, qui est le signe probablement le plus admirable de la véracité de la prédication de Jésus. Edmond Michelet a été non pas homme politique et chrétien, mais homme politique chrétien. Lors d'une conférence devant l'International Christian Leadership en Hollande en 1955, il a déclaré « S'il est une vertu qui s'impose de nos jours à l'homme politique qui se veut chrétien, c'est, avec l'orgueil, bien sûr, de son titre de chrétien, une certaine humilité aussi devant l'ampleur redoutable des problèmes qu'il a à affronter et à s'efforcer de résoudre. » Pensons à ce député au Parlement d'Ottawa qui s'oppose avec énormément de courage à des pratiques épouvantables qui se déroulent sur les terres de nos agriculteurs actuellement. Vous êtes au courant, vous avez vu ça à la télévision. Edmond Michelet ajoute, « Il ne s'en tirera pas tout seul, c'est trop clair, il lui faudra l'aide permanente de celui, Dieu, qui anime tous ses actes, toutes ses pensées. L'homme politique chrétien sera donc d'abord un homme de prière. Le responsable politique chrétien, s'il veut ne pas être infidèle à sa mission, doit être aussi un homme d'étude. Le chrétien engagé sur le forum est aussi, et c'est même pour cela qu'il s'y trouve, un homme d'action. Le forum voulant dire, évidemment, si on veut, l'Assemblée nationale, etc. C'est ici, j'ose le dire, déclare Edmond Michelet, que les difficultés vont commencer pour lui. Elles auront même précédé son accès dans les assemblées publiques. Ces difficultés, car, ne le perdons pas de vue, il y aura eu, pour y accéder, à refuser des procédés, des attitudes, des compromissions dont ses adversaires, s'ils ne sont pas aussi scrupuleux que lui, n'auront pas manqué de se servir pour lui en interdire l'accès. Les luttes électorales dans nos démocraties occidentales revêtent souvent l'aspect de combats singuliers, où les coups bas ne manquent pas, et où, par conséquent, le chrétien risque de se trouver souvent handicapé si, comme il en a l'impérieux devoir, il refuse de souscrire à la formule digne de Machiavel, suivant laquelle la fin justifie les moyens. Pensons à l'avortement ici au Canada qui est permis jusqu'au jour même de la naissance, c'est incroyable. Il ne faut pas que la vertu chrétienne, dit Edmond Michelet, la vertu chrétienne d'humilité, fasse de nous des hommes de précaution, plus que des hommes d'initiative, bien au contraire. Mais elle doit inspirer notre action quotidienne, comme elle doit alimenter notre prière. Il a dit ça en 1955. Car on ne bâtit pas sur la haine. Il faut le pardon, la réconciliation. Edmond Michelet a toujours interdit chez lui l'emploi du mot « boche » pour qualifier les Allemands. Je vous ai dit qu'il était emprisonné à Fresnes parce que trahi par quelqu'un, un voisin. Et il écrit à sa femme, qui était très chrétienne aussi, « Je te demande tout d'abord de ne parler à personne des gens de Brive, où ils habitaient, qui m'ont envoyé ici. » Je leur pardonne de tout mon cœur et je te supplie d'en faire autant. Et il met en parenthèse, et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, c'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute, n'oublions pas que c'est à un travail de réconciliation que nous sommes appelés. N'élargissons pas les fossés. Calme. Discrétion, charité chrétienne. Il écrit ça en mai 1943. Dans un chapitre de son livre Rue de la Liberté intitulé Nouvelle géographie cordiale de l'Europe, à la page 143, ça va de la page 143 à 166, il écrit cette phrase, entre autres évidemment, mon propos n'est pas d'éliminer l'Allemagne de ma géographie cordiale, la géographie de mon cœur, si vous voulez. Mais ce n'est pas facile, je le jure. Et après la libération, le général de Gaulle, qui a gracié un ancien agent de la Gestapo, beaucoup critiquent la mansuétude du général de Gaulle. Edmond Michelet le répond dans un article intitulé « La haine, c'est l'hiver du cœur ». Il écrit « J'ai vécu une expérience, celle d'avoir fermé les yeux de beaucoup de camarades envoyés à Dachau, comme tant d'autres là et ailleurs à la suite d'une dénonciation. À l'heure du dernier pâle sourire et du dernier faible serrement de main, le moment venu des dernières recommandations, ce n'est pas un cri de vengeance, j'emporte le témoignage, qui sortait des lèvres des pauvres moribonds, mais toujours, oui toujours, un mot de tendresse à transmettre aux êtres chers qu'ils laissaient derrière eux. Tout s'est fondé sur la prière et les sacrements, qui sont les soutiens du chrétien engagé. Edmond Michelet était un homme de prière, il allait à la messe tous les jours. Il priait en famille, avec sa femme et ses 7 enfants. Il récitait son chapelet. Et croyez-le, croyez-le pas, il faisait souvent des pèlerinages et aussi des récollections, c'est-à-dire des retraites, il se retirait auprès d'un prêtre avec d'autres et priait. Il demandait souvent à ses proches, « Pense à prier pour moi. » Parmi les prières qu'il préférait, il y avait en premier lieu celle du Père de Grand Maison. Elle est belle, cette prière que vous connaissez probablement. Il la récite avec sa femme tous les jours, depuis le jour où il l'a découverte en prison. La voici. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Donnez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, oui, un cœur tendre et compatissant, un cœur fidèle et généreux, un cœur qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Donnez-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre Fils. Un cœur qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse. Oui, un cœur tourmenté, de rendre gloire à Jésus-Christ, un cœur blessé de son amour et dont la souffrance ne s'apaisera qu'au ciel. Il aime aussi beaucoup prier avec le souvenez-vous. Vous connaissez ça, le souvenez-vous. Un souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé votre secours, ait été abandonné et animé de cette confiance ô Vierge des Vierges, ma mère. Je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Et puis il aimait aussi la prière du Père de Foucault, « Mon Père, je m'abandonne à vous. » Oh, quelle est belle cette prière. Et il appartenait d'ailleurs aux fraternités séculières de Charles de Foucault. Puis également, il priait avec le cantique des patrouilles, à qui, lorsque ses aînés ont commencé le scoutisme, « Ô toi qui bordais tes apôtres et les gardais durant la nuit. » C'est beau, hein? Et lorsqu'il est devenu un politique, il a eu souvent recours à Saint-Louis, roi de France. Qu'il était essentiellement un homme religieux qu'Edmond Michelet. Il dit, Étienne Borne, c'est fantastique, la foi chrétienne était l'âme de son âme. Il croyait avec cette simplicité sans ostentation qui ferait paraître naturel le surnaturel lui-même. Edmond Michelet avait donc une grande dévotion envers la Sainte Vierge, comme on l'a vu tout à l'heure. Il disait, je voudrais dire, la véritable découverte que beaucoup de déportés ont faite au cours de leur méditation de cet extraordinaire personnage de la foi catholique qu'était la Vierge Marie. C'est lui qui parle, qui a écrit ça. Dans un univers inhumain, ajoute-t-il, dans l'océan de haine qui prétendait nous submerger dans le camp de Dachau, l'humaine tendresse, la bonté inépuisable et si accessible de Marie, nous furent souvent cause de joie. Causa nostra laetitia. Dans la contemplation de la Vierge au pied de la croix, nous découvrions un sens nouveau à notre misère. Mieux encore, à méditer sur son inlassable intercession, nous comprenions de plus en plus ce que pouvait être notre propre attitude, tant dans les jours de notre mort, comme on dit dans le Je vous salue Marie, que lorsque plus tard se régleraient les comptes à la fin des temps. Aucun langage ne traduira jamais, ajoute-t-il, la reconnaissance infinie de ceux qui ont connu ainsi cette grâce de la transfiguration de leur souffrance et celle bouleversante du désarmement de la haine. Lorsqu'à la fin de sa vie, Edmond Michelet, alors à bout de force, est nommé ministre des Affaires culturelles, il prend l'habitude de dire un « Je vous salue Marie » sur chaque marche de l'escalier qui mène à son bureau au deuxième étage du ministère. Il le fait en souvenir de ses nombreux pèlerinages à Notre-Dame de Rocamadour, où les pèlerins avaient l'habitude de gravir le grand escalier à genoux, en récitant un ave sur chaque marche. Car Edmond Michelet et sa femme, je vous l'ai dit, ont toujours été de fervents pèlerins. Il y avait Rocamadour, souvent à pied, Lourdes, Fatima, au Portugal, et Chartres. À Dachau, Edmond Michelet a risqué à maintes reprises sa vie pour l'Eucharistie. Il nous donne son témoignage dans un discours qu'il a prononcé au congrès eucharistique de Munich, en Allemagne, le 5 août 1960. Il était à ce moment-là ministre de la Justice, ou comme on dit en France, garde des Sceaux. Et voici la présence en toi. C'est ce qu'il écrit. Et voici la présence en toi. C'est-à-dire l'absolue révélation de l'amour. Et quand on communie, c'est la présence, avec un P majuscule, que nous avons. Celui dont le sang ruisselle d'onction avec l'eau et l'impossible expression. L'impossible expression, voilà bien la vraie formule, celle du grand Max Jacob. Je vous ai déjà fait des émissions sur Max Jacob, un juif converti. Il dit-il, c'est l'expression, la formule qui convient à cette heure et en ces lieux, au moment où il est demandé à quelques-uns d'entre nous de porter témoignage de ce qu'a été pour eux la présence eucharistique dans cette atmosphère de catacombes sous Dioclétien qui était celle du camp de Dachau au cours des années qu'ils y ont vécu. Oui, l'impossible expression. Que le propos ait été tenu par cet illustre poète français, ce juif converti, Max Jacob, victime lui aussi de la persécution et donc martyr de la foi, ajoute encore à notre émotion, à l'instant où il nous faut brièvement évoquer notre expérience d'alors. Il dit, je revois cette chapelle de la du bloc 26, une baraque si vous voulez, une cabane. Impitoyablement fermée cette chapelle, pendant longtemps, aux laïcs, et où, parce que français et par conséquent indiscipliné, je me rendais chaque matin avant l'aube. Nous étions là, plusieurs centaines, serrés les uns contre les autres, comme les grains d'une même grappe de vigne, promises au même sanglant pressoir, suivant silencieusement les prières du sacrifice de la messe. Ce que nous appelions dans notre vocabulaire l'organisation avait, grâce, je crois, à la connivence du curé de Dachau, réalisé ici des prodiges. Il ajoute, la prédilection bien connue de nos camarades allemands pour la stricte liturgie nous permettait ainsi de participer intrinsèquement à la vie de l'Église. J'espère que vous avez déjà vu dans des églises allemandes comment les Allemands prient. Nous suivions donc, écrit-il ponctuellement, par la couleur des ornements du jour, l'alternance du propre du temps, le cycle temporal et le sanctoral, pleurions au temps de l'Avent et du Carême, nous réjouissions au cycle de Noël et de Pâques, et espérions, ah oui que nous espérions, avec la verte espérance des dimanches et des jours après l'Épiphanie et de ceux d'après la Pentecôte. Les ornements sont verts. Hein? Nous nous sentions, à l'époque, nous nous sentions dans notre GN moins isolés du reste de l'univers. Dans le sens le plus littéral, le plus juste du mot, nous communions intimement avec tous nos frères du monde extérieur. Jamais autant qu'alors, je n'ai éprouvé la profonde signification d'un des aspects les plus palpables du dogme de la communion des saints. Et il ajoute, c'est tellement beau, il m'est arrivé aussi parfois d'assister à une messe plus émouvante encore que celle du bloc 26 qui restait malgré tout une cérémonie tolérée. Celle qui se célébrait à côté dans le bloc 28 de nos camarades les curés polonais était interdite. La pauvreté, le dépouillement avaient là quelque chose de bouleversant chez les Polonais. Nous étions bien loin de l'autel de tambours et de canons, du baldaquin d'aigle et de drapeaux chanté par le lyrique Mickiewicz, grand poète polonais, n'est-ce pas, dans sa célèbre prière du pèlerin. Le dénuement était total. Ici, plus d'ornements. L'officiant célébrait le Saint-Sacrifice dans ses haillons de bagnard. Un dérisoire gobelet de fer lui tenait lieu de calice, une boîte à pastilles de ciboire. Cela ne l'empêchait pourtant pas, dans cette baraque misérable, de murmurer de toute sa foi, de toute sa conviction, de toute notre foi, de toute notre conviction, le psaume de David, Domine, dilexi decorendo mustue, oui Seigneur, j'aime le décor de ta demeure. Une chapelle consacrée à l'agonie du Christ, et donc à l'église persécutée du silence, est vraiment ici à sa place. Grâce en soit rendue à notre camarade Monseigneur Neuhausler, du Comité international de Dachau, à tous ceux enfin qui, par ce profond symbole, ont voulu conserver le souvenir de ces années d'épreuves où rien ne nous fut épargné d'opprobre et de misère. Et il continue l'impossible expression. J'y voudrais revenir. Un de nos camarades français de Dachau, le cher docteur Pierre Suire, a osé écrire que ces dures années furent pour nous des années exaltantes. Ah, qu'il avait raison de le proclamer. Laissez-moi baisser ici la voix, parler sur le ton de la confidence. Pour un laïc chrétien, n'est-ce pas une promotion inouïe que de se voir indigne, promu au rôle d'un Tarsicius, hein, qui a porté l'Eucharistie au début de l'Église, comme je vous ai dit tout à l'heure, et qui a été tué. Saint Tarsicius. Il ajoute, il termine comme ça, « Nous sommes pourtant quelques-uns à avoir connu cet honneur insigne auprès duquel tous les autres, tous, apparaîtront à jamais pitoyables. La prière de l'homme à son Dieu qu'il croit, qu'il sait, qu'il sent présent sous les voiles eucharistiques, ne se peut guère exprimer qu'en langage d'orateur sacré ou de poète. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Mon sentiment ne se peut formuler autrement que par la magnifique incantation du commun des fidèles, « Pange lingua gloriosi ». Corporis mysterium, à vrai dire, je ne suis même plus tellement sûr, si grande était notre détresse d'alors, qu'il me soit venu à l'esprit de le murmurer tout bas, cet hymne eucharistique, quand j'allais porter le viatique au sinistre révire, d'où les prêtres étaient impitoyablement chassés. C'est après coup que j'ai réalisé ce que sans irrévérence, bien sûr, je qualifierais de performance. Mais ce dont je me souviendrai jusqu'à mon dernier jour, c'est le sourire resplendissant, à le visage rayonnant d'une joie qui n'était déjà plus la nôtre, des agonisants auxquels j'allais glisser entre les lèvres l'hostie consacrée qui m'avait généreusement été confiée par le prêtre ami, le complice. Et j'achèverai ici mon témoignage. Il se devait d'être bref. Il ne pouvait pas ne pas l'être. Je laisserai à ceux qui, dans notre Église, ont reçu la mission d'enseigner le soin de tirer les leçons d'une expérience que beaucoup d'entre eux, ne l'oublions pas, ont vécu avec nous ici par haine de leur foi. Et en hommage à nos frères allemands, ajoute finalement Edmond Michelet, qui avant nous ont su découvrir l'audacieux génie chrétien de notre Paul Claudel, je me bornerai quant à moi, pour conclure, à proposer un thème de méditation tiré de Corona Benignitatis Anidei. C'est de très beaux textes qui recouvrent l'année liturgique de Paul Claudel. Alors il cite « Demeurez avec moi, Seigneur, en ce jour de la guerre et du danger. Regardez votre serviteur qui n'est pas bien brave et vaillant. Ô mon maître, donnez-moi de ce pain à manger. Et ni les hommes, ni l'enfer, ni Dieu même ne pourront m'arracher votre corps que je possède entre mes dents. » C'est tellement extraordinaire ce texte de Claudel et ce texte d'Edmond Michelet. Deux grands chrétiens de la fin du deuxième millénaire. Avant de continuer, je voudrais vous signaler quelques ouvrages, en particulier celui qui m'inspire beaucoup aujourd'hui. C'est un petit livre de la petite fille d'Edmond Michelet, Agnès Brot, B-R-O-T, Edmond Michelet, « Nous avons cru à l'amour ». Ce petit livre est dans la collection Paroles de vie, aux éditions du Livre ouvert. C'est distribué à Montréal par Claude Messonnier. Et je vous signale aussi le livre qui vient de paraître chez Pierre Tequi, Jean Peyrade, figure catholique du XXe siècle, le tome 3. Il y a un bon article sur Edmond Michelet. Et un très beau livre de Jean Charbonnel paru en 1987 chez Beauchesne, Edmond Michelet. Jean Charbonnel, avec aussi le témoignage d'Étienne Borne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, chez Beauchesne. Et puis le livre d'Edmond Michelet lui-même, « Rue de la liberté » aux éditions du Seuil. Oh, il y aurait tellement d'autres choses, mais enfin, il faut procéder, n'est-ce pas? Edmond Michelet déclare à un moment donné dans La Vie corésienne en 1947, « D'une part, la religion ne nie nullement son sort à celui d'une politique, quelle qu'elle soit. D'autre part, dans un monde qui semble de plus en plus voué à la colère et à la haine, elle reste là, inébranlable, pour enseigner aux hommes la vanité de leurs efforts s'ils oublient d'y joindre cette parcelle d'amour que leur a enseignée il y a 20 siècles une parole, avec un P majuscule, qui ne passera pas. » Alors, des années après Dachau, Edmond Michelet est invité en tant que représentant du gouvernement français aux obsèques du prince François de France, fils du comte de Paris, mort en Algérie, à la chapelle royale de Dreux. Dans la voiture qui les en ramène, le préfet s'étonne qu'un ministre de la République ait osé communier lors d'une messe dite officielle. Edmond Michelet lui répond vivement, « J'ai risqué ma vie à Dachau pour l'Eucharistie. Je me suis ainsi acquis le droit de communier où je veux et quand je veux. » C'est la foi. Peu importe ce que les autres pensent. Hein? En 1955, lors d'une mission en Chine, écoutez bien ça, en Chine communiste, il demande d'assister à la messe. Il est pour lui hors de question d'être privé de l'Eucharistie où qu'il soit. Et cette demande, qui surprend beaucoup ses interlocuteurs chinois communistes, lui est accordée. Et il en est très ému. Oui, Edmond Michelet appartenait à l'International Christian Leadership, le mouvement écuménique de responsables chrétiens. Il déclare dans La tunique sans couture, un article paru toujours dans La Vie corésienne en 1950, cet incomparable pater que le Christ enseignait à ses disciples, comme la plus belle des prières, quelle résonance ne doit-elle pas éveiller en nous tous, ces enfants dispersés, au milieu de nos frères incroyants qui peut-être n'attendent qu'une chose pour nous rejoindre et abandonner leurs décevantes idoles de classe, de caste et de race, que soit enfin réalisée dans nos actes cette unité à laquelle le Maître conviait ses apôtres avant de les quitter, pour que Rome apparaisse enfin au monde anxieux comme la patrie de tous, ainsi que le demandait naguère Pie XII. Il est nécessaire que chacun de nous, catholiques romains, travaille de tout son cœur à l'union concordante de toutes les forces de l'Esprit Saint et de l'amour. Edmond Michelet nous invite donc à la fidélité. Fidélité à l'Église, fidélité à nos engagements, fidélité à nous-mêmes. Nos fidélités, dit-il, sont des citadelles, à la suite de Peggy, qui était son maître. Il nous invite à la cohérence. Il nous invite à l'unité de notre vie spirituelle et temporelle. Qu'on s'en réjouisse, dit-il, ou qu'on s'en afflige, l'humanité vient d'entrer, ainsi que le remarquait Pierre Teilhard de Chardin, dans la plus grande période de transformation qu'elle ait jamais connue, et cette époque de colossale accélération de l'histoire est également celle d'une profonde nostalgie de l'unité chrétienne. Mais il ne s'agit pas, pour ceux qui se réclament du Christ aujourd'hui, d'imposer au monde le leadership d'une chrétienté médiévale artificiellement reconstituée. Il s'agit pour eux, et pour commencer, de chercher ensemble, avec humilité, à imiter le scribe semblable au maître de maison dont il est question dans l'Évangile et dont il est dit qu'il tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Le témoignage qu'il nous donne, Edmond Michelet, ne fait qu'un. Avec celui de sa femme, que ses petits-enfants appelaient Mamé, et qui écrivait dans son carnet, cette femme, Madame Michelet, en 1983, elle écrivait tout simplement, « Seigneur Jésus, faites que toutes mes pensées, toutes mes paroles et toutes mes actions soient inspirées par vous. » C'est donc un esprit de justice et d'équité qu'avait Edmond Michelet. Il s'était forcé de poser en, on pourrait dire en termes humains, tout simplement, le problème de la condition des gens qui sont enfermés dans des camps de concentration, dans des prisons. Et il a attaché comme ministre de la Justice son nom à un nouveau code de procédure pénale. Il a toujours suivi sa conscience. Étienne Borne pense que le rayonnement de Michelet doit beaucoup à ce qu'il restait le même partout, mais, comme dit Étienne Borne, grandissant au-dedans. Puis il précise, « Je n'ai connu qu'à Robert Schuman, un autre ministre des Affaires étrangères de France, un autre saint qui devrait canoniser, sa cause est à Rome, saviez-vous ça? C'est incroyable. Hein? Je n'ai connu qu'à Robert Schuman, dans un tout autre style, cette même sorte d'identité de soi avec soi, et cette même simplicité du regard et du cœur. » Fantastique, des témoignages formidables. Edmond Michelet semble avoir approché de bien près la synthèse entre, on pourrait dire, l'humilité et la magnanimité. Un jour, à l'église Saint-Augustin, Charles de Foucault a entendu, vous vous souvenez, l'abbé Huvelin, vous avez fait des émissions sur Charles de Foucault, puis l'abbé Huvelin aussi, il entend l'abbé Huvelin conseiller à son auditoire, et il en a le cœur transpercé, « Cherchez la dernière place. Vous êtes sûr qu'on ne pourra pas vous la disputer, mais vous y trouverez quelqu'un, Jésus-Christ. » Est-ce qu'il n'y a pas là une approche suprême de ce qu'on pourrait appeler le mystère Michelet, comme le dit si bien le père Carré? Edmond Michelet, qui a été chargé des hautes responsabilités du gouvernement français, mais les a assumées toujours comme un serviteur, et s'il est fidèle à l'Évangile, celui qui a l'ambition de réconcilier, de rassembler, ne peut réussir cette œuvre malaisée, difficile, puis estimée folle par les pense-petits puis les cœurs étroits, que s'il est radicalement désintéressé et prêt à subir toutes les avanies au milieu de soi. Après ces paroles, je veux rendre hommage à ce député de l'Assemblée nationale, du Parlement d'Ottawa, qui s'est élevé ces jours-ci, avec tant de courage. Nous pouvons, je crois, avoir une profonde admiration pour ces hommes qui se tiennent debout. Et nous pouvons réciter avec eux l'antienne d'ouverture de la messe d'aujourd'hui. Regarde-moi, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés.